Sans me faire plaisir, que nous devons nous émanciper de ce système-là, vivre Merci beaucoup Michel et un grand bonjour à tous. Alors, je voudrais dire, je suis très très heureux d'être ici d'abord pour le sujet dont nous allons parler, mais et bien sûr aussi pour la rencontre d'amis, j'en ai déjà vu plusieurs depuis tout à l'heure. Et enfin pour vous faire une confidence, je l'ai faite au Père Abbé tout à l'heure, c'est à Belloc que j'ai posé un acte écologique majeur en 1995, donc c'est pas d'aujourd'hui, puisque j'ai décidé ici d'arrêter de fumer. Et depuis 1995, sans doute par la grâce du Dieu, je me suis tenu à ma décision. Voilà, après cette petite confidence qui vaut son pesant de vérité écologique, je voudrais passer au sujet. Alors, nous sommes tous convaincus d'une évidence. Et c'est cette évidence-là précisément qui nous conduit ici ce matin. C'est que le monde, l'humanité, sont un carrefour aujourd'hui. Quand nous assistons, ça a été évoqué tout à l'heure, à une crise majeure, et une crise majeure qui conduit à un changement de modèle. Je me permets juste de rappeler, c'est une chose que vous connaissez, que, au fond, nous pouvons être aujourd'hui témoins d'une triple révolution qui se développe actuellement dans notre monde. Une révolution économique dont nous payons quelques conséquences d'ailleurs, en fait, c'est pas une révolution économique avec la mondialisation marchande et financière, une révolution numérique avec toutes les conséquences d'Internet, mais aussi ce nouveau champ de réflexion et de découverte que sont les nanotechnologies, et enfin une révolution génétique avec la découverte du génome humain. Et cette triple révolution provoque une mutation radicale et globale de nos sociétés. Au fond, on peut dire tout change aujourd'hui. Il y a quelques résistances, mais des résistances qui ne peuvent pas tenir face au grand courant qui emporte tout aujourd'hui. Les modèles dominants changent. Les repères que nous avions jusque-là sont en train de se dissoudre. Enfin, je voudrais prendre l'image d'un penseur orthodoxe, mon père, qui dit « Les lunettes à travers lesquelles nous percevons le monde se couvrent de buée. » Nos catégories de pensée sont mises en question et ne suffisent pas toujours à répondre aux nouvelles questions qui se posent à nous. Et ce sont ces trois révolutions dont je viens de parler qui entraînent l'humanité dans une série de crises que l'équipe d'organisation a évoquées, qui a conduit à bâtir ce projet-là. Crise interne à chaque société, des crises aussi entre les nations et crise entre l'être humain et la création dont il fait partie. Alors, je voudrais un instant faire un petit commentaire sur ces crises. Elles sont en fait très ambivalentes, ces crises-là. D'un côté, elles créent des problèmes sérieux à différents niveaux. Des problèmes économiques, bon, vous savez, je ne vous apprends rien, mais enfin, c'est l'occasion de nous le rappeler, avec des inégalités et des exclusions croissantes. Problèmes sociaux, avec cet accroissement dont il est beaucoup question en ce moment, du sentiment d'insécurité. Mais aussi en même temps, la dissolution des liens traditionnels à l'intérieur d'une société. Crise politique, Je considère, je ne sais pas si vous êtes de mon avis, que le sens démocratique est sérieusement mis en question. Crise culturelle, avec d'une part l'uniformisation des modes de vie et d'autre part les régressions identitaires. Une crise éthique. La technique, les avancées technologiques donnent à l'homme un pouvoir considérable, sans mesure, s'il n'est pas corrigé par autre chose. Et enfin, une crise écologique. Vous savez ce qui se passe, le réchauffement climatique, les pollutions diverses, l'épuisement des ressources naturelles, la disparition des espèces, et j'en passe. Eh bien, à partir de là, ce que nous savons aujourd'hui, c'est que le modèle de société occidentale, individualiste et gaspilleur, un modèle auquel d'autres qui sont émergents aspirent, il faut bien le savoir, il faut bien s'en rendre compte, ce modèle-là n'est, ça a été lu tout à l'heure, ni durable, ni généralisable. Je ne sais pas si vous vous rappelez encore George Bush. Il disait dans des conférences internationales, le style de vie des Américains n'est pas négociable. Et on en sait, il refusait tous les accords, en particulier dans le domaine de l'environnement. Eh bien, si tous les habitants de la Terre vivaient comme les Américains, il faudrait aujourd'hui 6,8, ça a été calculé, planètes pour subvenir à leurs besoins. 6,8. Et il n'y en a qu'une. Ce que je dis là vient d'une étude sur ce qu'on appelle l'empreinte écologique. L'empreinte écologique, c'est, je rappelle juste pour ceux qui ne sauraient pas, c'est l'espace de terre dont un individu, qui est nécessaire à un individu pour subvenir à ses besoins. L'espace de terre nécessaire à un individu pour subvenir à ses besoins. Ben voilà, si les besoins étaient mesurés à l'aune de ce que le style de vie américain demande, il faudrait 6,8 planètes pour que tout le monde puisse y accéder. Je disais que c'est une crise ambivalente. Donc d'un côté, voilà. D'un autre côté, il y a dans ces crises, des chances et des occasions à saisir. Parce que il s'agit d'appel à des changements. Dans la situation actuelle, il y a de graves menaces, mais il y a aussi des promesses. Au fond, ce qu'on constate, c'est que la mondialisation et les révolutions actuelles ouvrent à une nouvelle promotion des droits de l'homme. Bien s'en rendre compte un peu douloureusement autour du bassin méditerranéen. Et aussi un nouveau partage des savoirs. Il n'y a plus les savoirs d'un côté et l'ignorance de l'autre. Ce monde sans frontières permet, je dis bien qu'il s'agit de promesses, il ne s'agit pas toujours de réalité malheureusement, mais en tout cas, ce qui est en promesse peut un jour être en réalité. En fait. Donc, un nouveau partage des savoirs, ouverture aussi à l'accès au patrimoine des divers peuples et des diverses cultures, ouverture aussi à un certain nombre de progrès, en particulier dans le traitement des maladies graves. Bref, on se trouve aujourd'hui devant une possibilité de destruction et de régression, mais aussi devant une possibilité de jeunesse d'un monde nouveau. Et ensuite, c'est dans cela que cette crise est ambivalente. À la question que nous, chrétiens, nous pouvons nous poser dans cette situation-là, quels acteurs voulons-nous être ? Ce qu'il faut dire tout de suite, je crois, c'est que cette période n'est ni heureuse ni malheureuse. Elle est un défi à relever par chacun. Elle n'est pas seulement un moment de crise dans le sens de moment d'épreuve, elle est aussi un moment de crise dans le sens original d'une crise, qui est un mot grec, pardonnez-moi, côté pédant de mon propos, c'est crisis, ça veut dire jugement, ça veut dire discernement. Elle est aussi un moment de crise dans le sens de jugement, de discernement, de décision à prendre. Au fond, elle est une épreuve de vérité pour nous tous. La question devant laquelle nous sommes, c'est que voulons-nous faire de notre planète, de notre espèce, de notre société, de notre vie. Alors ce qu'il faut reconnaître, bien sûr, c'est que les problèmes auxquels nous sommes confrontés sont d'une ampleur et d'une complexité sans précédent. La conséquence, c'est que répondre à cette question que j'ai posée à l'instant est d'autant plus difficile. Alors je voudrais rajouter une chose, il y a une dimension à ne pas oublier dans cette réflexion et dans ce discernement. C'est la dimension spirituelle. Ce qui se joue dans le monde où nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas seulement la survie de la planète et de l'espèce humaine, mais c'est le sens même de l'existence. Le sens de ce progrès technologique dont nous pouvons tout faire. Le sens du développement économique auquel nous pouvons donner tous les aspects que nous voulons. Au fond, ce qui se joue dans le monde où nous sommes, c'est le devenir de ce qui, par définition, échappe au marché. Et c'est quoi le devenir de ce qui échappe au marché ? Ben, c'est ce que devient le divin dans l'homme, créé à l'image et fait à la ressemblance de Dieu. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une réponse chrétienne à ce questionnement ? Je ne dirais pas de cette façon-là. Vous verrez à la fin ce que je veux dire en disant ça. Ce qui est sûr, c'est que les chrétiens, au cœur de la société telle qu'elle est aujourd'hui, ont à porter les défis de ce temps avec leurs contemporains. Pas à côté d'eux, mais avec eux. Je voudrais, c'est les 50 hommes de Vatican II, je voudrais simplement faire une citation de Gaudium et Spes. Le travail humain procède immédiatement de la personne qui imprime aux choses matérielles en quelque sorte son sceau et les soumet à sa volonté. Par son travail, l'homme s'associe à ses frères et leur rend service. Il peut pratiquer une vraie charité et apporter son concours à l'achèvement de l'œuvre créatrice de Dieu. Au fond, cette grande affirmation de Vatican II, c'est que les chrétiens ont à être et veulent être attentifs aux enjeux humains. Le Concile ne parlait pas encore d'environnement. C'est tout à fait évident qu'on ne trouverait aucune mention dans le Concile, parce que ce n'était pas encore arrivé à la conscience, même si François d'Assise parlait déjà de l'environnement, puisqu'on l'a cité tout à l'heure. Mais le Concile se préoccupait des questions concernant l'humanité, questions économiques, questions de travail. Mais même si le Concile ne parlait pas encore d'environnement, ce dont il s'agissait déjà au moment du Concile, et ce dont il s'agit toujours aujourd'hui, c'est de prendre part au questionnement commun à tous, chrétiens ou non chrétiens, prendre part au questionnement commun à tous concernant l'avenir de la vie sur la terre. Eh bien, ce défi-là interroge aujourd'hui une manière de se comporter par rapport à la nature. Les modes actuels de production et de consommation représentent un danger pour notre planète. Leurs conséquences sont diverses. Les conséquences, elles ont déjà été évoquées tout à l'heure, c'est, nous pouvons mentionner l'épuisement des ressources énergétiques, nous pouvons mentionner, parce que ça se voit aujourd'hui, les tensions à propos de l'accès à l'eau, vous savez que c'est le grand thème aujourd'hui, ça, l'accès. Nous pouvons mentionner les atteintes qui sont graves de conséquences à la biodiversité. Nous pouvons mentionner le changement climatique et les pollutions diverses dont nous sommes témoins. Mais, j'ajoute tout de suite, il ne s'agit pas simplement de préserver notre rapport à certains biens. La question écologique, en réalité, elle doit nous conduire à revisiter notre conception du bien-vivre personnel et commun. Ce qui compte au fond pour l'homme, quel qu'il soit, c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il désire, ce qu'il souhaite. Bien, nous chrétiens, nous avons une certaine conception à tenir de la vie bonne. Tout le monde souhaite la vie bonne. Bien, nous chrétiens, nous avons une certaine conception à tenir de la vie bonne. Alors pour pouvoir prendre les moyens de réaliser et d'atteindre la vie bonne, il faut déjà que nous précisions ce que nous entendons par une vie bonne. Et nous allons essayer de le faire, hein, de toute façon. En disant cela, je voudrais insister sur un point. Je ne suis pas en train d'évoquer les contraintes nécessaires pour que le monde ne s'écroule pas. Mais je suis en train d'évoquer là les choix nécessaires pour avoir une vie bonne, digne de l'homme et digne du projet de Dieu. Pour un chrétien, c'est cela le fond de la question écologique. Alors, vous le savez, je pense que le Père va le rappeler aussi tout à l'heure, moi je ne vais pas m'attarder trop longtemps là-dessus. Pour déterminer notre avenir, nous chrétiens, nous avons des sources propres où puiser. Notre source propre, c'est la Bible qui nous offre un chemin de sens et de vie pour orienter nos choix quotidiens, pour mettre en question des attitudes actuelles, pour formuler des projets innovants et travailler avec d'autres à la mise en œuvre de nouveaux modes de vie. Alors que nous disent les Écritures en fait? Elles nous donnent pas, c'est pas un mode d'emploi sur la manière dont il faut vivre, mais elles nous disent quelque chose d'essentiel sur le sens de la création voulue par Dieu et sur le rôle de l'homme dans cette création. Je rappelle simplement une chose, mais je laisserai au Père le soin de développer tout ça, hein, c'est pas... Dans le grand récit de la création, dans Genèse au chapitre 1, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il soumette les poissons de la mer, les oiseaux du ciel. » Il dit aussi « Mâle et femelle, il les créa. Dieu les bénit, Dieu leur dit « Soyez féconds et prolifiques, remplissez la terre et dominez-la. » Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Voilà. C'était très bon. Donc qu'est-ce que ça veut dire, ce petit passage qui a suscité bien les controverses et qui a donné lieu à toutes sortes d'interprétations, hein, c'est pas... Pour moi, ça veut dire, un, que à l'être humain, créé homme et femme, pas seulement homme, homme et femme, Dieu attribue une position et une responsabilité particulière dans cette maison de la création. Écologie, oikos, c'est la maison, hein. En tant qu'image de Dieu, les hommes et les femmes représentent de façon éminente le Créateur. En tant qu'intendant de la maison, ils doivent sauvegarder la terre comme un espace de vie abondamment garni pour tous les êtres vivants. Alors, soumettez-la, dominez-la, ce n'est pas tout à fait le vocabulaire de la conservation, c'est un peu plus musclé que ça, ce vocabulaire-là, hein, c'est pas... Mais, étant donné le contexte que je viens de décrire à l'instant même, à savoir image et ressemblance de Dieu, hein, Eh bien, cette parole ne livre pas la terre à l'homme pour qu'il la pille. C'est une domination qui est en relation avec Dieu lui-même, qui est le Seigneur et le berger véritable de la création. L'homme agit en tant qu'intendant précisément établi par Dieu et responsable devant lui, et responsable d'agir comme Dieu agit vis-à-vis de sa création. Donc non pas dans un sens de domination comme nous l'entendons quelquefois. Voilà, à partir de ces quelques mots sur les sources, qui, je répète, vont sans doute être amplement développés tout à l'heure, je voudrais poser la question: à quoi sommes-nous invités, nous chrétiens? Alors je vais développer quelques points, je vous annoncerai chaque fois le titre de chacun de ces points. C'est pas... Alors, premier point, au fond, en réponse au don de la vie que Dieu fait à l'humanité et à la création, il faut que nous repérions les urgences. La situation actuelle, on l'a dit déjà, représente un défi pour notre monde, pour notre humanité. Le temps est venu des choix décisifs. Alors nous savons que les pratiques qui ont cours aujourd'hui contribuent à une dégradation irrémédiable de la vie sur la Terre. Je vous rappelle encore, je développe un tout petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure, la surexploitation de la nature. En raison d'un... Il faut bien comprendre pourquoi cette surexploitation, en raison d'un modèle de développement qui est axé sur la seule croissance. Cette surexploitation provoque des ravages qui mettent en cause l'avenir de notre monde. Il nous faut donc trouver les moyens de travailler à ce qu'une vie bonne soit possible pour les générations à venir, le Père Abbé en parlait déjà tout à l'heure, mais aussi pour nos contemporains, pour tous nos contemporains. Aussi pour nos contemporains qui font partie de catégories sociales moins avantagées que les nôtres, et aussi pour nos contemporains qui sont dans certains pays du monde aujourd'hui très nettement défavorisés. Nous découvrons, si nous regardons les choses d'un peu plus près, que notre rapport à la nature peut aller jusqu'à une vision absurde et suicidaire de la vie qui nous est confiée, puisque nous pouvons consommer en fermant les yeux, en bouchant les oreilles, jusqu'au jour où il n'y aura plus rien à consommer, où nous serons tous morts parce que nous aurons été enfuis sous des raz-de-marée ou autre chose de ce genre. Voilà. On peut, si on ne réagit pas, on peut très bien aller jusque-là, en se disant, de toute façon, ce n'est pas de notre faute, advienne que pourra. Mais en même temps, en faisant ce type de choix, ça veut dire aussi que nous prenons partie des injustices réelles qui existent dans le monde d'aujourd'hui. La mauvaise répartition, la mauvaise partage des biens, c'est pas le... Il nous faut donc inventer de nouveaux modes de vie dans lesquels nous pouvons nous réjouir du don de Dieu. Quand je dis nous pouvons nous réjouir, nous et nos frères humains, comme nous, de la vie et de la beauté de la nature, tout en continuant à travailler, à transmettre et à améliorer l'héritage reçu. Qu'est-ce que ça a comme conséquence immédiate? C'est que nous devons assumer de manière solidaire des conditions de vie convenables au profit de l'ensemble de la population mondiale qui continue à croître. Alors c'est toujours un peu inquiétant de se rendre compte que les pays dits émergents, ils veulent vivre comme nous. Mais ils se rendent compte que ce n'est plus possible, que nous avons tous à changer quelque chose. Mais encore faut-il le faire par consentement et non pas par nécessité. On parle de consentement. Il faut particulièrement veiller à ce que le souci de durabilité ne viennent pas handicaper la solidarité avec nos contemporains. Je voudrais faire un petit commentaire là-dessus, si vous voulez. On parle beaucoup du développement durable aujourd'hui. Ce mot est piégé. Je ne suis pas favorable du tout à ce mot-là. Il est piégé parce que, pour les économistes, développement durable veut dire un aménagement du modèle tel que ça puisse continuer comme c'est actuellement. En fait, ce ne sera pas tout à fait pareil, il faudra aménager les choses, mais enfin, on ne change pas le modèle, on ne change pas les purs. Hein, c'est pas, donc, ce qui veut dire qu'on accepte bien l'injustice telle qu'elle est aujourd'hui. Il ne faut pas que ce souci de la durabilité, dans ce sens-là, vienne handicaper la solidarité avec nos contemporains. La volonté de promouvoir un développement soutenable va de pair avec l'obligation de réaliser une justice sociale à l'échelle de l'humanité entière. Nous désirons aussi... Et nous avons à désirer aussi une vie bonne pour les générations à venir. Mais comment serons-nous conséquents avec ce désir si nous ne prenons pas des mesures efficaces pour que tous ceux qui habitent aujourd'hui notre terre puissent mener une existence conforme à leur dignité? On peut toujours souhaiter le bien de ceux qui viennent, mais il faut commencer par le faire le bien de ceux qui sont là. Sinon, nos rêves du meilleur des mondes dans le futur, ça, c'est des paroles verbales et rien de plus. En fait. Donc, une réorientation profonde de nos modes de vie devient urgente. Pour que l'avenir demeure ouvert. Alors, il y a là une belle perspective, hein. Mais cette réorientation comporte aussi des contraintes, et des contraintes qui, malheureusement, risquent de peser d'abord sur les plus fragiles. Ce qui veut dire que s'il est bon de penser, de promouvoir un développement durable dans le sens, non pas dans le sens des économistes, mais dans le sens de durable pour l'homme dans le monde, et il faut aussi que ce développement soit solidaire. Il ne faut pas seulement qu'il soit durable, il faut aussi qu'il soit solidaire. Et pour être durable, il faut qu'il soit solidaire. Alors ça nous oblige à penser notamment à l'accès à l'eau. Ça nous oblige à penser à l'alimentation, aux ressources énergétiques, aux conditions climatiques. Il y a aujourd'hui, vous savez, on aime... pas les immigrants dans notre société, mais il y a aujourd'hui et il y a de plus en plus de migrations climatiques. Si des initiatives courageuses ne sont pas prises rapidement, nous risquons de voir se multiplier des conflits liés à l'appropriation des ressources. Au fond, l'avenir de la paix est donc aussi mis en cause. Deuxième point, pour accueillir ce don, nous sommes invités à entrer dans ce que je voudrais appeler une alliance de vie. Et là, c'est une invitation qui s'adresse bien spécifiquement aux chrétiens. Je crois que c'est du cœur même de la foi que nous sommes invités à regarder la réalité dans laquelle nous sommes inscrits. Pour les chrétiens, c'est quoi le cœur même de la foi? Ben, le cœur même de la foi, c'est le visage de Jésus-Christ. Le cœur même de la foi nous renvoie au visage de Jésus-Christ, mort et ressuscité. En Jésus-Christ, mort et ressuscité, les chrétiens reconnaissent Dieu tel qu'il se révèle. Alors, qu'est-ce que Dieu manifeste de lui dans notre tradition chrétienne? Et c'est très important de regarder ça. Eh bien, Dieu manifeste de lui dans notre tradition chrétienne un aspect trinitaire. Dieu, à la différence d'autres religions, Dieu n'est pas un bloc, Dieu est une communion d'amour entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Je pense que mon frère orthodoxe développera sans doute plus que moi ce que je dis là, en fait. C'est à partir de là que nous pouvons comprendre qui nous sommes à partir de cet aspect trinitaire, puisque nous sommes créés à son image et à sa ressemblance. Donc si... Excusez-moi, j'ai un petit problème. J'ai l'impression qu'il me manque une page, figurez-vous. Donc, je ne sais pas. Bon, excusez-moi, je crois que il me manque une page, alors ça vous laisse le temps de souffler un instant.
Petite minute de louange. Cet opuscule cite le cantique de François d'Assise dans ses termes. Loué sois-tu, mon Seigneur, dans toutes tes créatures, spécialement messire au frère Soleil. Loué sois-tu pour sœur Lune et les étoiles, pour frère Vent, pour sœur Eau et pour frère Feu. Oui, loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère de la terre, qui nous porte et nous nourrit, qui produit la diversité des fruits, les fleurs diaprées et les herbes. Voilà le cantique de la création de François d'Assise, ce qui est, comme vous savez, l'un des patrons de l'Europe, sans doute, pour nous au moins, de l'écologie. Et cet ouvrage suggère, au deuxième chapitre, parmi tous les moyens à mettre en œuvre, que nos communautés chrétiennes célèbrent le Saint d'Assise, François d'Assise. Il le souhaite depuis que les églises au moins d'Europe, mais c'était l'ensemblement mondial, qui s'est tenu à Sibiu, en Roumanie, en 2007, a suggéré qu'il y ait des fêtes de la création, les fêtes de la création, autour de la fête de François d'Assise, qui a lieu le 4 octobre, les fêtes de la création. Alors voilà peut-être parmi les idées, mais toute la deuxième partie s'intitule « Agir en chrétien pour la création », quelques propositions. Alors, parmi les propositions, et on ne reste pas dans les hauts sommets de François d'Assise, du cantique de la création et des fêtes de la création, on rentre même dans le quotidien que nous vivrons tout à l'heure à midi, à 1h, nous aurons le pique-nique tiré du 5. Eh bien, je lis la page 46. Ceci. De même, les organisateurs de réunions d'église doivent être très vigilants pour tout ce qui touche les modes de consommation dans le cadre de leurs initiatives de rassemblement, en particulier pour les transports, entre parenthèses, le covoiturage. La nourriture, le volume et la nature des déchets, la nature des matériaux utilisés, la nature des matériaux utilisés pour les pique-niques tirés du sac. Et ça continue. L'éclairage et le chauffage des salles de réunion, le recyclage, ce qui vous fait penser que peut-être pour nos kermesses, je parle en présence des organisateurs de la kermesse de Saint-Martin, nous pourrions adopter un mode de vie écologique avec un verre unique, si ce n'est pas cette année pour les années futures. Voilà.
C'est bien. Voilà, je vais continuer, si vous voulez bien. Donc je disais que ce que Dieu manifeste de lui dans notre tradition chrétienne, c'est son aspect trinitaire. Il est communion d'amour entre le Père et le Fils et le Saint-Esprit. C'est à partir de là que nous pouvons comprendre qui nous sommes, puisque nous sommes créés à son image et à sa ressemblance. Alors qu'est-ce que nous pouvons comprendre en fait ? Nous pouvons comprendre que la vie de foi n'est pas dans un face-à-face entre l'homme et Dieu, tout simplement. Notre vie de foi s'inscrit dans une relation triangulaire entre l'homme, Dieu et le monde. La communion d'amour, elle n'est pas seulement entre nous et Dieu. La communion d'amour, elle est entre nous-mêmes, entre Dieu et le monde auquel nous appartenons, les autres humains et le monde auquel nous appartenons. Donc la relation de foi n'est pas une relation neutre. Comme je le disais tout à l'heure, dans notre théologie, la relation trinitaire est une relation d'amour, c'est une relation de communion. Eh bien, c'est dans la lumière de la communion trinitaire que nous pouvons comprendre la relation triangulaire qui est constitutive, la nature de cette relation triangulaire qui est constitutive de l'homme. Dieu, l'homme, le cosmos, le monde auquel nous appartenons. Ce qui veut dire que la création dans son ensemble, toute la création, est essentielle dans ce qui constitue l'homme. Elle est le lieu de l'homme, elle est le lieu qui identifie pleinement l'homme. En le distinguant de Dieu et du reste de mais aussi du reste de l'humanité, elle lui donne une place au sein de ce monde, de cette relation avec Dieu. Au fond, l'homme naît en vis-à-vis de Dieu, et l'homme naît à lui-même au sein de l'univers. C'est-à-dire que l'univers est le berceau au sein duquel l'homme prend sa consistance et son identité dans sa relation avec Dieu. Donc, si la création se trouve confiée à toute l'humanité, c'est pour que l'homme puisse y trouver son sens de vie. Il a donc à en prendre soin, il a donc à le faire fructifier. Et c'est tous ensemble que les hommes doivent prendre soin et faire fructifier cette création. Et c'est pour permettre à chacun de trouver sa pleine identité, donc au bénéfice de tous aujourd'hui et dans les temps à venir. Alors nous constatons que cette création est fragile. Elle est sérieusement fragilisée par l'homme. Mais de cela, nous avons à tenir compte. Dans le registre de la foi, nous pouvons parler d'une nécessaire conversion. Cette conversion comporte la mise en question d'une manière d'être au monde qui ne tient pas compte du fait que l'homme a besoin du monde pour exister, pour s'identifier lui-même. Ce registre de la foi, dans le même temps, ouvre donc la voie à des nouvelles perspectives qui garantissent l'avenir d'une vie fraternelle. Puisque, au fond, l'homme ne s'identifie que dans cette communion trinitaire entre Dieu, lui, et le reste du monde. Et c'est cette fraternité qui est l'expression de cette communion trinitaire. Nous ne sommes donc pas des êtres face à Dieu et à d'autres êtres, nous sommes des êtres en communion avec d'autres êtres devant Dieu. Alors, troisième point, nous sommes appelés dans la ligne de l'incarnation du Christ, ce Christ qui est venu dans le monde à travailler au développement. Alors les mots d'environnement et d'écologie signifient que, enfin, quand on emploie les mots d'environnement et d'écologie, en général ça veut dire que l'homme est considéré comme extérieur par rapport à la nature. Au fond, l'écologie, c'est le souci de l'homme par rapport à la nature, mais le souci de l'homme par rapport à la nature voulant dire que l'homme est extérieur à la nature, il a à se soucier d'elle. C'est comme ça dans le sens commun quand on parle d'écologie. Il faut que nous changions notre perspective par rapport à nous-mêmes et par rapport à la nature. L'humain n'est pas distinct de la nature. L'humain n'est pas en regard de la nature. L'humain est d'abord nature, c'est-à-dire l'humain a une dimension corporelle. Le corps que nous avons, dans lequel nous sommes, n'est pas une simple enveloppe de l'esprit. Nous sommes corps autant que nous sommes esprit. Et étant corps, nous avons des rapports vitaux comme corps avec la nature. Pardonnez-moi ce détail un peu, je ne sais pas comment le qualifier. Il y a 70% d'eau dans notre corps. Combien ?
90.
Alors il paraît que c'est même 90, moi, aujourd'hui. Enfin, il faut que je réagisse. Que je réagisse mes connaissances. Enfin, c'est pas.
Hein, c'est... 70, c'est bien. C'est bien déjà.
Comment ?
Oui, c'est bien déjà, 70.
Même si c'est que 70, c'est déjà beaucoup. Mais enfin, c'est encore plus. Hein. Conséquence. Notre responsabilité par rapport à la nature n'est pas simplement un acte de dévotion vis-à-vis de la nature, elle comporte aussi le souci de notre humanité. Il faut donc s'inscrire en faux contre la théorie de certains écologistes selon laquelle l'humain est ennemi de la nature. Enfin, il ne faudrait pas qu'il y ait des hommes parce qu'ils détruisent la nature. L'homme n'est pas extérieur à la nature, il est partie intégrante de la nature. Et la nature ne peut pas non plus être simplement considérée comme une réserve de ressources ou comme un décor extérieur à l'humain. Là, on a aussi nos sources nous aident à comprendre. La poésie biblique, reprise d'ailleurs par François d'Assise, dont on a chanté tout à l'heure, invite à chanter en même temps la beauté du monde et la grandeur de l'homme, rendre grâce en même temps pour la grandeur de l'homme, qui, à partie liée avec ce monde, je vous renvoie au psaume 8, au Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre, c'est comme ça qu'on chante, vous voyez bien de quoi il s'agit. Eh bien, une telle perspective, celle que je viens d'évoquer là, éthique et spirituelle, nous empêche de ne voir dans la nature et dans le corps humain qu'un matériau qu'on peut modeler. Il y a une vraie solidarité de fond entre la nature et l'homme. Eh bien, cette relation entre l'homme et le monde est fondée pour nous chrétiens sur l'incarnation du Christ. Jésus-Christ, fils de Dieu, a pris corps en humanité. Il a assumé comme fils la vie biologique et le lien avec le monde. Eh bien, cette solidarité du fils de Dieu avec la nature nous invite à vivre notre implication et notre responsabilité à l'égard du monde comme lui, comme des enfants de Dieu. Donc de très, très directement liés. Il y a en particulier une chose qui est à comprendre, qui est extrêmement importante, qui est au cœur de la théologie de la création d'ailleurs, c'est que l'homme et le cosmos sont sauvés ensemble. Je ne vais pas vous faire beaucoup de citations bibliques, je voudrais quand même vous en faire une au moins. C'est dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, versets 18 à 23. « Je vous lis ça, c'est pas, vous pourrez le reprendre. J'estime en effet que les souffrances du temps présent sont sans proportion avec la gloire qui doit être révélée en nous. Car la création attend avec impatience, la révélation des fils de Dieu. Livrée au pouvoir du néant, non pas de son propre gré, mais par l'autorité de celui qui l'y a livré, elle garde l'espérance, car elle aussi, il s'agit de la création, sera libérée de l'esclavage, de la corruption, pour avoir part à la liberté et à la gloire des enfants de Dieu. Nous le savons en effet, la création tout entière gémit maintenant encore dans les douleurs de l'enfantement. Elle n'est pas la seule, nous aussi, qui possédons les prémices de l'Esprit. Nous gémissons intérieurement, attendant l'adoption, la délivrance pour nos corps. La rédemption, c'est bien sûr, nous le savons, l'homme purifié de son péché et réconcilié avec Dieu. C'est notre rédemption, c'est ça. C'est pas, on est bien d'accord là-dessus. L'univers y est associé par la médiation de l'homme. La Bible ne sépare jamais l'homme de l'univers, dit la création tout entière est sauvée. Donc la Bible ne sépare jamais l'homme de l'univers créé. L'homme est l'achèvement de la création. Il fait partie de la création et il est l'achèvement de la création. Vous rappelez bien le récit de la création, l'homme est l'achèvement, le sommet, je ne sais pas. Alors si on peut parler de rédemption de l'univers, s'il faut parler même de rédemption de l'univers, c'est à partir de la rédemption de l'homme, de l'humanité. L'homme fait partie, nous l'avons dit tout à l'heure, de l'univers, dans son corps. L'univers n'est pas pour lui seulement un cadre. L'homme et l'univers sont associés dans la rédemption. Et c'est ce que veut dire Saint Paul quand il dit « La création est appelée à partager à sa façon l'état futur des enfants de Dieu. » C'est Jésus-Christ qui renouvelle de façon définitive toute la création et la place tout entière dans l'achèvement, sur la voie de l'achèvement qui lui est promis. Au fond, ce que je veux, si j'insiste là-dessus, c'est pour dire clairement que toute la tradition chrétienne insiste sur le fait qu'à aucun moment on ne doit séparer l'humain du reste de la création. Donc quand on parle de changer de mode de vie, c'est pas que nous qui devons changer de mode de vie, ce qui doit changer, c'est nous dans la création et avec elle, mais on y reviendra. Alors Jésus-Christ est le médiateur de toute la création. C'est ce que dit toute la tradition. Il est le Logos de Dieu qui œuvre dans le monde, qui le crée, qui le vivifie et qui l'éclaire. Le commencement et la fin de toute l'histoire, c'est Jésus. Et non seulement pour l'homme, mais pour toute la création. Nous n'avons donc pas seulement à nous sauver, nous devons sauver avec nous tout l'univers, parce que rien dans l'œuvre de Dieu n'est destiné à la mort. Au contraire, en Jésus, l'humanité est réconciliée avec son Créateur par sa mort et sa résurrection, et à partir de là, toute la création est destinée à être réconciliée avec l'homme en vue du plein accomplissement du projet de salut de Dieu. C'est-à-dire que la mort et la résurrection du Christ nous réconcilient avec Dieu, et à travers cette mort et cette résurrection du Christ, toute la création est réconciliée en même temps que l'homme avec Dieu. Donc, quatrième point, dans la dynamique de la résurrection, nous avons à promouvoir une réconciliation universelle. Il ne s'agit donc pas simplement de vouloir un développement durable et soutenable. Ce développement durable et soutenable doit être au service de tout l'homme et de tous les hommes. Et dans une perspective, je rappelle, de solidarité avec les générations. Ce qui est en jeu, c'est le bien commun, et pas seulement le bien individuel. Mais dans un univers mondialisé, on n'est pas dans un univers où on est solidaire de ses proches, de sa communauté. On est dans un univers mondialisé. Donc, le défi actuel, c'est de revitaliser une démarche politique. C'est aussi de revitaliser une démarche politique qui permette que les choix nécessaires en matière d'avenir soient assumés dans un cadre d'orientation collective. Il faut un projet commun où le plus grand nombre possible soit associé aux décisions. Ceci suppose, je crois, des innovations importantes dans les manières d'opérer les choix collectifs. Et quand je dis des choix collectifs, on mesure de plus en plus que ces choix relèvent de l'échelon planétaire. Au fond, ce qui est interrogé, ce sont les modalités de la gouvernance mondiale. Il faut que nous fassions preuve de créativité dans ce domaine. De la même manière que nos prédécesseurs, qui ont su inventer de nouvelles institutions à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ont fait preuve de créativité. Or, ce qu'on constate malheureusement, je crois, c'est que les conférences internationales en matière de mise en place des nouveaux équilibres environnementaux, genre Copenhague, ne sont pas des belles réussites, il faut bien le reconnaître. Les églises, et c'est là que nous sommes directement concernés, en raison de leur nature et de leur présence effective dans l'ensemble des peuples, sont habilitées à faire entendre des appels et à proposer des initiatives en toute modestie. Bon, le petit ouvrage, là, par exemple, qu'on vous a présenté tout à l'heure, en est un exemple. Mais la conséquence de ça, et c'est à ça que je voudrais venir, c'est que l'expérience humaine se comprend alors comme une aventure communautaire, et non pas une aventure individuelle, une aventure communautaire, fondée sur des solidarités au sein de l'humanité contemporaine et avec les générations à venir. Mais pour opérer des choix dans ce sens-là, il est important aussi que l'information sur les questions qui se posent soit la plus large et la plus honnête possible, et que les débats sur les questions écologiques soient menés de manière communautaire, ouverte, démocratique. Je prends juste un exemple, il y a cette grande querelle entre les climato-sceptiques et les autres, comme on dit, enfin, c'est pas, il n'y a personne là-dedans qui est démocratique, il n'y a personne qui est ouvert, et il n'y a personne qui dit clairement les choses. Je vous donne un exemple, mais vous ne le répéterez pas, ce que je veux dire. Hein, c'est pas, nous avons discuté beaucoup avec les évêques de ces questions-là. Hein, c'est pas, il y a eu au départ deux experts qui sont venus nous dire, voilà, ça c'est la situation. C'est à partir de là que nous devons raisonner. Ben, il y a des évêques qui ont trouvé qu'on n'aurait pas dû dire tout ça, qu'on nous inquiétait inutilement, etc. Voilà, bon, ben c'est important que l'information soit juste, vraie, large, ouverte, mais pas fermée et pas idéologique. C'est ça la question. En fait, on est en train de faire en ce moment, là, dans ma région, le groupe existe, on est en train de travailler sur la question du stockage des déchets nucléaires. Il y a un fameux site qui s'appelle Bure, vous avez sans entendu parler de ce site. Eh bien, il y a des débats publics, il y a des votes au Parlement, mais il n'est pas évident que l'information donnée soit totalement juste, parce que, précisément, il y a d'autres intérêts qui sont en jeu. Donc, il est important, et ça, l'Église peut le faire, créer des espaces où on puisse débattre en vérité, en justice et en solidarité. Alors, pour nous chrétiens, justement, nous relevons de la vie nouvelle qui prend sa source dans la Pâque de Jésus-Christ. Eh bien, ces solidarités humaines s'y inscrivent en une communion fraternelle, je le disais déjà tout à l'heure, qui relie les générations actuelles à celles qui les ont précédées et à celles qui sont appelées à venir. Il s'agit donc de partager la grâce de vie qui nous réjouit aujourd'hui et qui oriente notre avenir humain, humaine, notre aventure qui oriente notre aventure humaine. Il s'agit de la partager sous le signe d'une réconciliation effective des générations humaines, des différentes catégories de population et de l'humanité entière, avec la nature dont elle est partie prenante. Donc il s'agit, au fond, de réconcilier les générations entre elles, de réconcilier les différentes catégories de population qui n'en sont pas au même point, dont certaines ont été victimes et d'autres ont été prédateurs. Il s'agit de travailler à cette réconciliation-là. Mais ceci nous appelle à nous situer dans une perspective d'espérance. La prise en compte des menaces objectives qui pèsent sur notre monde ne vise pas à cultiver un pessimisme qui pourrait sombrer en désespoir. Au contraire, cette prise en compte-là ouvre la voie à une espérance concrète qui nous stimule à réfléchir de manière raisonnable et à agir pour le service d'un progrès humain. Alors, cinquième point, une réconciliation qui, comme le Christ, conduit à prendre soin du monde et de l'humanité. Mais face aux défis de ce monde, il est fait appel à notre capacité de solidarité et de responsabilité. Il s'agit de répondre d'un don que nous avons reçu pour le transmettre en continuant à l'humanité. Donc la mise en œuvre des potentialités de l'intelligence humaine est importante, mais elle ne suffit pas. En même temps, il faut faire appel à l'aptitude de la raison, à discerner, à évaluer la qualité morale des jugements, des décisions et des actions. Il s'agit de réorienter les finalités que nous recherchons dans le sens d'un vrai vivre ensemble. Le vrai vivre ensemble ne peut pas se réduire au seul confort matériel et ne peut pas se réduire simplement à la quantité des biens disponibles. Et l'écoute de la parole de Dieu permet de proposer des voies d'avenir comme un projet désirable en écho à une promesse de vie heureuse. Au fond, ce dont il s'agit, c'est que ce que nous avons à dire au monde, ce n'est pas simplement une suite de prix à payer, de punitions en raison des excès que nous avons faits ou que nous faisons actuellement. La méditation sur la Bible nous fait prendre des distances par rapport à cette manière de regarder le monde. Nous sommes appelés à proposer quelque chose qui est désirable et qui peut rendre les gens heureux. Dans un rapport d'octobre 2008 de la COMEC intitulé « Réflexion chrétienne sur les changements climatiques », il est dit ceci. Dans une société démocratique, le simple fait d'obliger les citoyens à respecter les lois ne permettra pas de réaliser des changements d'une telle ampleur. Une réflexion éthique et un débat sont indispensables pour convaincre les esprits et les cœurs des citoyens afin de rendre ce changement effectif. Et je conclus, les chrétiens ont leur part à prendre dans cette réflexion et ont quelque chose de spécifique à y apporter. Ils ont à se mobiliser pour contribuer de manière originale et dynamique à l'instauration d'un nouveau rapport au monde et d'une authentique solidarité mondiale. Alors ce que nous devons faire, c'est bien sûr en Église, c'est travailler à une prise de conscience concernant autant les menaces sur l'avenir de notre terre que les enjeux économiques et politiques, éthiques et spirituels de l'avenir de notre planète. Alors cette réflexion et ce débat ne doivent pas être propres de cercles savants, elles doivent être conduites au plus proche du terrain, au plus près des personnes, en fonction de la diversité des problèmes que ce qui se posent dans la vie quotidienne, des problèmes de logement, des problèmes de transport. Cette réflexion, ce débat doivent être conduits au plus près des personnes en fonction des enjeux professionnels, de la distribution des revenus, etc. Eh bien, les chrétiens ont quelque chose de particulier, de spécifique à donner là-dedans, je disais à l'instant. Mais quoi ? Notre savoir-faire en matière de dialogue confiant, en matière d'écoute des différents points de vue, en matière de respect de ceux dont on ne partage pas les opinions. Mais c'est ça, nous pouvons l'apporter dans cette réflexion. Parce que très souvent, les réflexions sont extrêmement idéologiques. Enfin, on défend des points, le point de vue qu'on a envie de défendre. Un point, c'est tout. L'habitude de traiter des questions relatives au sens de la vie et une certaine compétence éthique permettent de ne pas réduire l'échange à une simple recherche de recettes techniques. Ce travail en commun vise à servir une meilleure connaissance des choses, soucieuse de vérité, intégrant la complexité des questions. Alors, le travail des experts est très important, il faut leur rendre hommage, mais le travail des experts ne remplace pas la réflexion faite au niveau des différents acteurs. Si la dimension économique constitue un nécessaire critère d'évaluation, elle ne peut pas représenter le seul point de vue, et c'est ce qui a tendance à advenir en ce moment. Elle ne peut pas représenter le seul point de vue. Il faut absolument croiser le facteur économique avec le souci écologique et la justice sociale. Alors, de nombreuses initiatives en vue d'un rapport plus respectueux avec le monde actuel et à venir existe déjà. À nous de promouvoir, à nous de prendre le parti de promouvoir plus intensément des engagements pratiques pour de nouveaux modes de vie. Des engagements pratiques et responsables pour de nouveaux modes de vie. Et tout spécialement parmi les chrétiens des communautés. Je prends juste un exemple qui... C'est peu de choses, mais ça montre tout. C'est des engagements extrêmement pratiques. Pax Christi a lancé, maintenant c'est l'affaire de 25 mouvements, en fait, tout un collectif. Pax Christi a lancé les campagnes Vivre Noël autrement, Vivre l'été autrement. Bon, voilà. C'est un véritable engagement pour faire cela, et un engagement à la portée des communautés. Aucun expert ne peut mettre ça en cause, mais aucun expert ne dira de faire ça parce qu'il ne se situe pas à ce niveau-là. Il faut que les chrétiens apportent ceci, des initiatives concrètes pour le faire. La mobilisation pour contribuer de manière originale et dynamique à l'instauration d'un nouveau rapport au monde et d'une authentique solidarité mondiale. Au fond, il y a deux choses qui sont importantes, que nous ne nous contentions pas de réflexion générale, mais que nous réfléchissions au plus près du terrain, là où nous vivons, là où nous faisons des choix. Je prends par exemple aussi la nécessité d'être exemplaire en matière d'équipement. Je parlais tout à l'heure de l'organisation des pique-niques par les chrétiens. Ils doivent être exemplaires sur cette question d'environnement. On verra tout à l'heure ce qu'il en est. Donc, au plus près du terrain, et avec tous ceux qui sont déjà engagés, les deux choses. Il ne s'agit pas de se contenter de réflexion générale, il s'agit d'agir au plus près du terrain, de réfléchir et de choisir au plus près du terrain, et de le faire avec d'autres, avec tous ceux qui sont engagés par ailleurs. Alors nous serons à la hauteur de se vivre autrement. Les nouveaux modes de vie, c'est la sobriété heureuse, mais c'est surtout traduire dans la vie quotidienne notre respect de la création et notre sens de la responsabilité par rapport à l'homme et par rapport au monde. Merci. Voilà.
Ça va, je ne sais pas trop du temps. Très bien, merci.
Merci, Bernard. Avant de donner la parole au père Gurnal, pour faire